Il est 9h ici à Paris et à Francfort, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Alban Le Prince et à la une. Alban, cette question, l'économie mondiale va-t-elle rebondir ?
On se la pose à la veille de l'entrée en vigueur des droits de douane voulus par Donald Trump et au lendemain d'une journée cauchemardesque pour les marchés. Décryptage dans un instant. Donald Trump qui a pris tout le monde de court hier en assurant que les États-Unis sont en discussion directe avec Téhéran sur le dossier du nucléaire iranien. Annonce surprise alors que les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980. On reviendra également sur cette vidéo insupportable relayée sur les réseaux sociaux. Vidéo dans laquelle on voit un journaliste palestinien brûlé vif après une frappe israélienne à Khan Younes dans le sud de Gaza hier. Et puis la Turquie veut devenir un partenaire fort de l'Europe, comptant sur les grands bouleversements géopolitiques et la volonté de l'UE de se construire une défense solide. Ankara se pose désormais comme un allié incontournable, c'est votre dossier dans ce journal.
Au lendemain d'une journée infernale pour les bourses mondiales, les marchés vont-ils retrouver des couleurs ?
Question ce matin à la veille de l'entrée en vigueur des droits de douane de Donald Trump qui ont donné des sueurs froides aux investisseurs. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Alban.
Hier, quasiment toutes les bourses ont fini dans le rouge. Là, la tendance a l'air de s'inverser.
Oui, ça semble aller mieux ce matin pour les places boursières. Les européennes viennent à peine d'ouvrir leurs portes et par rapport à hier, la tendance s'annonce positive. Les indices repartent à la hausse à l'heure où l'on se parle. Ça fait 1 minute 30 que c'est ouvert à Paris, plus 1,81%. À Londres, plus 2% ou encore à Francfort sur la même tendance. Alors oui, c'est en hausse, mais ça ne compense pas les pertes de ces trois derniers jours. Évidemment, l'optimisme reste donc relatif.
Optimisme tout de même, puisque les échanges sur les marchés asiatiques ont repris des couleurs ces dernières heures.
Oui, Tokyo a pris un peu plus de 6% à la fermeture il y a quelques minutes. Optimisme sur le marché japonais et confiance, car comme souvent quand on parle de cours boursiers, ça se joue loin des salles de marché. La raison, c'est qu'une délégation japonaise est attendue à Washington pour négocier avec l'administration Trump. Et puis le locataire de la Maison Blanche n'exclut pas un rachat du géant de l'acier japonais Nippon Steel par le groupe américain US Steel. En Chine, c'est la banque centrale qui a souhaité rassurer en affirmant soutenir le principal fonds souverain pour soutenir donc les marchés. Ah bref, Alban, c'est vert ce matin sur les marchés mondiaux, un vert qui n'est certes pas vif, on peut parler finalement d'un vert très léger.
Merci Stéphane Genest, on retrouve votre chronique aujourd'hui, l'économie, consacrée ce matin aux réglementations en vigueur pour éviter un krach sur RFI.fr et l'application RFI Pure Radio.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, venu lui négocier les droits de douane directement à la Maison Blanche, eh bien il est reparti bredouille.
Le premier dirigeant à avoir été reçu par Donald Trump, il n'a pas obtenu les concessions espérées. Le président américain, lui, a une nouvelle fois créé la surprise en affirmant avoir des discussions directes avec l'Iran sur son programme nucléaire. Une très grande réunion sur ce sujet même prévue samedi prochain. Les précisions à Washington pour RFI de Guillaume Nodin.
Depuis 1980, les États-Unis et la République islamique d'Iran n'ont plus de relations diplomatiques. Lors de son premier mandat, Donald Trump a retiré son pays de l'accord nucléaire iranien négocié par Barack Obama, y mettant fin de fait. Et pourtant, les États-Unis et l'Iran parlent directement, affirme le président américain.
Nous avons des discussions directes avec l'Iran. Elles ont commencé et elles continueront samedi avec une très grosse réunion et nous verrons bien ce qu'il va se passer. Et je pense que chacun sera d'accord pour dire que trouver un accord sera préférable à l'alternative évidente. Et cette alternative évidente n'est pas ce vers quoi je veux aller, ou franchement, ce vers quoi Israël veut aller, s'ils peuvent l'éviter. Donc, nous allons bien voir si l'on peut l'éviter.
Et Donald Trump de préciser que l'Iran sera en grand danger si les discussions n'aboutissent pas. À ses côtés, Benjamin Netanyahou, tenant d'une ligne dure, réitère qu'il veut que l'Iran ne possède jamais l'arme nucléaire. Il était venu négocier une ristourne sur les droits de douane imposés par les États-Unis à Israël, malgré un engagement à éliminer les droits israéliens. Il n'obtient aucun engagement américain et assiste plutôt à un monologue de Donald Trump en faveur de sa politique douanière et à cette annonce surprise. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et en attendant cette grande réunion prévue samedi à Oman, l'Iran doit mener aujourd'hui à Moscou et sur le même sujet des consultations avec la Russie et la Chine.
Au Proche-Orient, la défense civile de Gaza fait état ce matin de 19 morts dans des frappes israéliennes.
Des victimes qui s'ajoutent à l'annonce hier de la mort d'au moins un reporter palestinien dans une frappe sur une tente où étaient regroupés des journalistes à Khan Younes dans le sud de l'enclave. Un média proche du djihad islamique palestinien annonce également le décès ce matin d'Ahmed Mansour, le journaliste que l'on peut voir dans une vidéo insoutenable relayée sur les réseaux sociaux, brûlés vifs dans l'incendie provoqué par le bombardement. Les détails depuis Jérusalem avec Sami Bourlifa.
Une scène épouvantable, partagée dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Les cris, les prières, la douleur et l'impuissance. Un homme dévoré par les flammes. Certains tentent de lui porter secours mais battent en retraite face au puissant brasier. La silhouette au milieu du feu est inerte et puis une jambe se lève, les deux bras remontent. Des gestes presque mécaniques, probablement les réflexes d'un corps à l'agonie. Selma Kadoumi est journaliste gazaoui et connaît la victime.
Dans la bande de Gaza, on n'a plus rien. On vit sous des tentes faites de bâches en plastique. Elles sont très inflammables. La suite, vous l'avez vu en vidéo. Notre collègue journaliste était assis en train de travailler sur son ordinateur portable lorsqu'il y a eu la frappe. Son corps a été criblé d'éclats. Blessé, il n'avait plus la capacité de bouger pour sauver sa vie et il a été dévoré par les flammes.
L'armée israélienne assume la frappe et affirme avoir visé un membre du Hamas qui se faisait passer pour un journaliste. Toujours le même mensonge, dénonce la photoreporter Selma Kadoumi.
À chaque fois, les forces d'occupation israéliennes nous accusent d'appartenir à tel ou tel groupe armé. Mais la vérité, c'est que les Israéliens tentent de nous empêcher de documenter leurs crimes. Ils nous empêchent de travailler et interdisent à la presse étrangère d'accéder à Gaza. Chaque semaine, des journalistes sont tués. Jusqu'à quand ?
Selma Kadoumi a été elle-même blessée par balle l'été dernier lors d'un reportage. Depuis le début de la guerre à Gaza, plus de 200 journalistes palestiniens ont été tués par l'État hébreu, selon le syndicat des journalistes palestiniens. Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
Et Israël interdit toujours l'accès à la bande de Gaza, à la presse étrangère.
Il est 10h à 10h06 à Moscou, pendant que son administration tente d'arracher une trêve. Donald Trump, lui, se dit mécontent que les Russes, je le cite, bombardent comme des fous en Ukraine.
Le Kremlin lui estime qu'il reste encore de nombreuses questions à régler avant de conclure un cessez-le-feu. Alors que les frappes se multiplient, l'une d'elles a notamment fait 20 morts, dont 9 enfants, vendredi dernier. Les infrastructures énergétiques sont également visées en dépit de l'engagement qu'avait pris Moscou et Kiev le mois dernier, Muriel Paradon.
Il ne se passe pas un jour sans attaque contre les infrastructures civiles et notamment énergétiques, malgré l'accord intervenu il y a 3 semaines avec la Russie. C'est ce qu'affirme Oleksandr Karchenko, directeur du Centre de recherche sur l'industrie de l'énergie à Kiev.
Chaque jour depuis 3 semaines, nous avons des attaques d'ampleur variable mais régulière sur des infrastructures stratégiques. Différents réseaux électriques dans la région de Kherson, dans celle de Soumy ou de Kharkiv, beaucoup ont été touchés. Il y a eu aussi de nombreuses attaques sur des centrales qui produisent de l'électricité et de la chaleur dans les régions de Kherson et de Kryvyi Rih.
Selon ce spécialiste, l'accord pour épargner les infrastructures énergétiques n'est non seulement pas respecté, mais il est surtout insuffisant.
Le secteur énergétique a besoin d'un réel cessez-le-feu, pas de trêve pendant un mois ou deux. Sinon, nous continuerons à vivre dans un contexte d'urgence.
Les dommages causés à ces infrastructures privent régulièrement les Ukrainiens d'électricité et de chauffage, même si la situation est moins critique aujourd'hui à la sortie de l'hiver.
Muriel Paradon, et face au grand bouleversement géopolitique, l'Europe tente depuis plusieurs mois de bâtir une défense solide. Pour ça, elle peut compter sur la Turquie. C'est le dossier de votre journal. Franck-Alexandre, Ankara, membre de l'OTAN, a réussi ces dernières années à s'ériger comme un partenaire fort du bloc européen.
Oui, l'armée turque, avec des effectifs qui avoisinent près d'1 million d'hommes, réservistes compris, se classe au 9e rang des armées les plus puissantes au monde, des troupes aguerries, bien équipées et capables d'être projetées sur des théâtres extérieurs, souligne l'ancien colonel de troupes de marine, Pierre de Jong.
Elle a été engagée à différentes reprises, c'est les affaires syriennes. Et la deuxième zone de combat où ils sont battus, c'était en Libye. Ils ont fait le choix de la partie ouest, donc ils ont fait le choix de Tripoli contre Tobrouk, et Tobrouk c'était Haftar, et Haftar c'est les Russes. Et c'est une armée pléthorique, c'est une armée qui est opérationnelle, c'est une armée archi-conventionnelle, mais qui a une partie qui est quand même très efficace, très modèle force spéciale, ils travaillent sans arrêt comme ça.
Une arme opérationnelle, Franck, qui s'appuie sur une puissante industrie de défense nationale.
D'ailleurs, certaines de ces entreprises sont devenues célèbres. Baykar pour les drones, Autocar pour les véhicules de combat. Ankara a ainsi exporté ces dernières années plus de 4000 véhicules blindés vers près de 50 pays. Mais pour vendre ces matériels, le modèle retenu est celui des offres tout inclus, comprenant la formation, l'entraînement, mais sans pour autant mobiliser l'armée. Pour le service après-vente, la Turquie fait appel à une société militaire privée, Sadat, SADAT, devenue incontournable pour gagner des parts de marché et étant étendre son influence, le président Erdogan excelle dans la mise en place de partenariats militaires, industriels et diplomatiques. La compagnie aérienne nationale Turkish Airlines entre aussi en jeu. Elle a ouvert plus de 60 destinations vers l'Afrique. Preuve d'une grande ambition, rappelle Pierre de Jong.
Ils sont sur une vague ascendante, on les voit bien un peu partout. Ils sont très performants dans les ventes d'armes, tout ce qui est blindé. La Mauritanie, ils sont équipés avec des engins blindés, transport de troupes, qui s'appelle le Scorpion, qui est très bon. Donc ils ont de bons engins blindés, ils ont des engins à roues, ils ont pas mal de choses à proposer. Donc ils en vendent pas mal, mais ils sont tentés après de faire la formation sur les armes. C'est ce qu'ils ont fait en Libye, où ils ont commencé à mentorer des unités. Et puis surtout, ils travaillent énormément avec les pays musulmans. Sadat, c'est vraiment un truc musulman. Erdogan, c'est un prolifique, comme on dit. L'objectif des Turcs, c'est de récupérer une espèce de zone d'influence qui part de la Turquie, qui passe par le Moyen-Orient et qui revient sur l'Afrique, quoi.
Et cette influence, Franck, la Turquie souhaite maintenant l'exercer en Europe.
Alors que Paris et Londres envisagent le déploiement de troupes européennes sur le sol ukrainien pour garantir un éventuel accord de paix, le régime turc a fait savoir qu'il était disposé à rejoindre l'initiative. Ankara est aussi disposé à demeurer un solide partenaire otanien, en contrepartie peut-être d'une inclusion de l'industrie turque de défense dans le programme de réarmement européen. Voilà, en matière de défense, la Turquie n'est plus un poids-plume et elle le fait savoir.
Franck Alexandre, spécialiste défense de RFI.
L'onde d'inondation qui a frappé.
Et on parle donc de la RDC. Au moins 30 personnes sont mortes dans les inondations du week-end dernier, selon le ministère de la Santé, qui affirme que 5000 familles ont aussi été touchées.
Un drame qui a provoqué la colère des habitants de Kinshasa. Il pointe notamment le manque d'entretien et de réseaux adaptés des voies d'évacuation des eaux dans la capitale. Alors Félix Tshisekedi a pris la parole pour annoncer l'organisation d'une réunion de crise qu'il présidera lui-même, Passion Ligodi.
L'onde d'inondation qui a frappé Kinshasa la semaine dernière aurait commencé à remonter dès le début de la semaine depuis la rivière Lukaya, située plus à l'ouest, selon des scientifiques contactés par RFI. Si des stations de suivi hydrométéorologique avaient été installées sur ces cours d'eau, il aurait été possible de prévoir plusieurs jours à l'avance l'arrivée de l'onde à Kinshasa et d'en anticiper les effets, estiment ces experts. Cela aurait notamment permis l'évacuation préventive des zones à risque. L'Agence nationale des météorologies et des télédétections par satellite Metelsat avait pourtant lancé une alerte dès février. Des précipitations excédentaires étaient attendues entre mars et mai, notamment dans les provinces de Kinshasa et du Congo central. De son côté, le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, basé à l'université de Kinshasa, insiste sur l'urgence de disposer d'un réseau d'observation au sol. Il rappelle que l'intensité des pluies ne suffit pas à expliquer seule l'ampleur des dégâts, l'urbanisation anarchique et l'absence de planification auraient amplifié l'impact selon ses analyses. Des scientifiques estiment que le coût des réparations sera 10 fois supérieur à celui de la prévention. Ces dernières années, le taux d'exécution des crédits alloués à la gestion des catastrophes naturelles n'a jamais dépassé les 30%, à l'exception de 2016 et 2017.
Passion Ligodi.
Et puis le mois de mars proche des records de température. Il s'agit du deuxième le plus chaud selon l'Observatoire européen Copernicus ce matin.
Oui, et pour la première fois en Europe, 11 particuliers victimes d'inondations, encore de canicules, attaquent aujourd'hui l'État français pour manquement à son devoir d'adaptation au dérèglement climatique. Ils sont rejoints par Greenpeace, Oxfam et le mouvement Notre Affaire à Tous, Pauline Berger.
En 2018, Salma Chaoui emménage dans un logement social à Paris. Rapidement, de la moisissure apparaît sur les murs, mais le bailleur lui conseille simplement d'aérer davantage. Face à cette réponse, l'étudiante de 23 ans entreprend des travaux elle-même, sans succès.
Il y a vraiment un sentiment d'injustice qui est ressenti tous les jours. De grosses conséquences sur nos santé. Mon petit frère, il a une maladie chronique, dont l'une des causes de développement, c'est la présence de champignons. Et le changement climatique, ça fait que renforcer le développement de ces moisissures. Plus il pleut, plus il fait chaud, plus les moisissures se développent. En fait, ça nous tue à petit feu.
Au cœur de cette action en justice, le troisième plan national d'adaptation au changement climatique. Son contenu est encadré par la loi européenne sur le climat, selon Clément Capdebos, avocat au barreau de Paris. Il estime que le texte ne répond pas à plusieurs critères.
Le plan ne tient pas suffisamment compte des vulnérabilités, qui sont celles, par exemple, de certaines personnes, en raison de leur situation de santé, par exemple, ou de leur mode de vie. Et surtout, il ne tient pas compte des vulnérabilités des territoires d'outre-mer qui sont véritablement les grands oubliés. On a également constaté que les budgets étaient en grande partie non définis, ce qui permet déjà de douter de la possibilité de mettre en œuvre ce plan efficacement.
Le gouvernement a 2 mois pour faire un retour aux sinistrés. S'il juge la réponse insuffisante, un recours sera déposé devant le Conseil d'État.
Pauline Berger.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Il est 9h14 ici à Paris, la revue de presse. Et c'est avec Théo Renaudon à la une. Théo, les réponses de la Chine et de l'UE à l'offensive commerciale de Donald Trump.
Oui, je rappelle que le président américain menace la Chine d'une nouvelle taxe de 50% sur tous les produits qu'elle importe aux États-Unis. Cela fait suite à la mesure de réciprocité qu'a pris Pékin face aux 34% déjà annoncés la semaine dernière. Une surenchère qui fait paniquer les marchés boursiers. Le China Daily, un journal qui appartient au Parti communiste chinois, commente les dernières menaces du dirigeant américain à l'égard de la Chine s'inscrivent dans le cadre de sa tactique visant à détourner l'attention nationale et alléger la pression exercée par son administration sur son administration. Le titre de propagande affirme donc que Donald Trump surenchérit pour créer l'événement quelque part et donc d'éviter de rendre des comptes face à la chute spectaculaire des marchés américains et des manifestations contre son gouvernement qu'on a pu voir ce week-end. Le China Daily affirme que ce que l'administration américaine craint le plus, c'est qu'il y ait front uni parmi ses cibles tarifaires qui prendront donc toutes les contre-mesures contre sa stratégie tarifaire. Je cite toujours dans ce cas le plan initial du dirigeant américain qui consiste à frapper les différents pays un par un est voué à l'échec. Un tel comportement dominateur, dénonce le China Daily, se heurterait inévitablement à une large opposition de la part de la communauté internationale.
Et qu'est-ce qu'on en dit, Théo, de l'autre côté du Pacifique ?
Eh bien, évidemment, une large partie de la presse américaine est critique vis-à-vis du président américain et craint cette surenchère et ses conséquences. Trump détruit la réputation de l'Amérique, titre carrément le Wall Street Journal. Mais allons voir ce matin le New York Post, le journal proche du clan conservateur, évoque la réponse de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui propose un plan de douane à zéro contre zéro. C'est exactement le type d'accord qui ferait des guerres tarifaires du président Trump un succès, commente le New York Post. Pour le moment, Donald Trump n'a pas dit oui à ce plan et les différents responsables américains envoient des signaux contestataires. Le président Trump, comme à son habitude, joue sur les deux tableaux, analyse le journal. Soit il dit oui, soit il maintient ses droits de douane pour remplir les caisses.
Ce qui pourrait, selon le journal, avoir de graves conséquences pour les Américains les plus pauvres.
Monsieur le président, supplie le New York Post, le monde est en panique. Appelez Ursula, prenez le zéro pour zéro comme salve d'ouverture et demandez plus, dit le New York Post. Choisissez soigneusement vos cibles. La Chine et le Vietnam peuvent être des cibles de choix, mais pourquoi blesser des alliés autant que des ennemis? L'avantage le plus immédiat sera ce que Wall Street cherche le plus, la clarté. Voilà pour ce que dit le New York Post, journal pro-Trump.
Et pendant ce temps, le journal québécois Le Devoir pose une question simple. Comment un gouvernement peut-il taxer autant de produits d'autant de pays aussi rapidement?
C'est en fait une lectrice québécoise qui pose cette question. Et en effet, pas si simple. Le Devoir interroge un économiste de l'Université de Montréal. Et effectivement, explique le journal francophone, le gros du travail d'adaptation incombe aux agents de douane et aux exportateurs des produits. Établir de nouveaux standards d'inspection vient s'ajouter aux tâches des employés. Aux États-Unis, 10% des marchandises entrantes sont vraiment contrôlées. Les douaniers font donc pour la plupart du temps confiance aux exportateurs sur la provenance de leurs marchandises.
La revue de presse signée Théo Renaudon. Alors, on parle beaucoup de ces droits de douane annoncés par Donald Trump. Et bien voilà, une toute autre conséquence des décisions de la nouvelle administration américaine. Radio Free Europe en difficulté. Donald Trump et Elon Musk ont décidé que ce média public américain, tout comme Voice of America, ne devait plus être financé par l'État. Basé à Prague depuis 30 ans, Radio Free Europe diffuse dans une trentaine de langues et cible prioritairement des pays où la presse n'est pas libre. Le gouvernement tchèque est donc rapidement monté au créneau pour défendre cette station et ses journalistes. À Prague, le reportage d'Alexis Rosenzweig.
Говорит Радио Свобода.
Le satellite permettant la transmission de la chaîne de télévision en langue russe de Radio Free Europe en Russie, Current Time, a été éteint jeudi dernier par Washington. Propagandiste en chef du Kremlin, Margarita Simonyan, directrice de Russia Today, n'a pas caché sa joie à l'annonce de la fin du financement de Radio Free Europe, parlant, je cite, d'un jour de fête pour la Russie. à Prague, l'arrêt des subventions, même s'il est contesté en justice, a pour conséquence le chômage technique d'une partie du personnel. Le directeur du groupe, Stephen Capus, refuse de baisser les bras.
Radio Free Europe, Radio Liberty a une mission très particulière. Nous opérons dans des régions où la liberté de la presse n'est plus autorisée ou bien est fortement restreinte. Grâce à notre travail, nous sommes devenus une bouée de sauvetage pour les membres de notre audience qui sont en quête d'informations fiables et précises sur ce qui se passe dans leur propre pays et dans le monde.
L'audience de Radio Free Europe est estimée à 50 millions de personnes par semaine, avec un fort impact également sur les réseaux sociaux. Preuve, s'il en fallait, que ce média américain, très important pendant la guerre froide, conserve un certain prestige et une certaine raison d'être encore aujourd'hui.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Le média américain, qui a renouvelé sa rédaction en hongrois et qui possède encore des services roumains et bulgares, dérange dans de nombreux pays. Son antenne kirghize Radio Azatik a été interdite par Bishkek en 2023. La documentariste tchèque Veronika Janatkova vient de produire un film sur le travail d'un des journalistes de cette antenne.
C'est absolument essentiel. Au Kyrgyzstan, cette affaire de corruption qui est au cœur du documentaire traîne depuis 2019. Mais une enquête journalistique de ce type n'aurait probablement pas été possible là-bas. En 2023, Radio Free Europe, Radio Azatik, la section kirghize, a déjà été interdite dans le pays. Le fait qu'il ait existé une institution soutenant ce type de recherche et de journalisme en faisait le seul espace où de telles informations pouvaient être publiées.
Le chef de la diplomatie tchèque, Jan Lipavský, a tenté de motiver ses homologues européens à sauver cette radio basée à Prague depuis 30 ans. Mais rien n'est encore acquis pour l'heure, surtout que le budget annuel représentait en 2024 environ 142 millions de dollars.
Alexis Rosenzweig, Prague, RFI.
Un reportage à écouter en longueur sur le site internet ou l'application Pure Radio de RFI. Washington et Pékin engagés donc dans un bras de fer commercial. Mais pas seulement, le gouvernement américain a aussi imposé à ses diplomates, à leurs familles et aux contractants habilités en poste en Chine, l'interdiction d'entretenir une relation amoureuse ou sexuelle avec des citoyens chinois. Cette nouvelle directive entrée en vigueur en janvier s'applique à tout le personnel de l'ambassade des États-Unis à Pékin et au consulat dans le reste du pays. Bonjour Claire Broderst.
Bonjour Clécy, bonjour à tous.
Envoyée spéciale permanente de RFI à Pékin, ce sont des méthodes, Cléa, qui rappellent tout de même un peu la guerre froide.
Très clairement, c'est-à-dire qu'en ressuscitant une tactique typique de la guerre froide, Washington envoie un signal fort. On est de retour dans une ère de confrontation idéologique et stratégique. Et l'idée, c'est que même les interactions humaines ordinaires, comme une histoire d'amour, ne sont plus considérées comme neutres, mais comme potentiellement dangereuses. Et ces types de mesures n'avaient plus été appliquées de manière aussi frontale depuis les années 80. Et à l'époque, les États-Unis avaient déjà interdit à leur personnel en poste dans des pays jugés à haut risque, comme l'URSS ou la Chine, d'avoir des relations personnelles avec des locaux. L'objectif, éviter toute exploitation par des services de renseignement étrangers.
Et pourquoi cette décision maintenant ?
Eh bien, la décision a été prise à la suite de pressions du Congrès américain qui estimait que les règles en place n'étaient pas assez strictes, notamment face aux tactiques dites de honeypot. Ce sont les tactiques de renseignement qui consistent à utiliser la séduction ou une relation amoureuse pour piéger une cible et obtenir des informations sensibles. Il y avait déjà eu l'été dernier une première version limitée de cette politique qui visait uniquement les relations avec le personnel local travaillant dans les ambassades et les consulats américains. Mais là, la mesure est généralisée à tous les citoyens chinois, quel que soit leur lien professionnel. Et jusqu'ici, les diplomates devaient seulement signaler ce type de relation et maintenant c'est interdit tout court, sauf si une dérogation est accordée, ce qui est très rare. Et en cas de violation, la sanction est claire, le retour immédiat au pays.
Alors quel est le message, Cléa, que Washington veut envoyer ?
Eh bien, les États-Unis considèrent que l'appareil de renseignement chinois est prêt à exploiter tout lien personnel, y compris les plus intimes. Et cela révèle, si vous voulez, une vision de la Chine comme une menace structurelle, bien au-delà de la simple rivalité économique ou géopolitique. Mais cette décision, ce qu'elle dit, c'est aussi autre chose, c'est que la sécurité passe avant la diplomatie. C'est-à-dire, même au prix d'un certain isolement du personnel américain ou même d'une image plus rigide. C'est une forme de diplomatie sous cloche, si vous voulez, où l'échange échange humain est vu comme un risque. Et enfin, c'est aussi un miroir des propres règles chinoises qui interdisent aux fonctionnaires toute relation intime avec des étrangers. Et donc Washington semble vouloir uniformiser les règles du jeu tout en clôturant, au moins pour l'instant, l'espace de confiance et d'ouverture.
Cléa Broderst, en direct de Pékin pour RFI. Allez, on parle maintenant d'une bataille du ciel qui semble a priori déséquilibrée. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour.
La justice française vient de condamner un parc éolien responsable de la mort de nombreux oiseaux, dont des espèces menacées. C'est donc la question d'environnement du jour, hein, Florent. Oiseaux ou éoliennes, faut-il choisir ?
Clotilde, j'en suis sûr, ça vous fera sûrement plaisir. On va entendre de nouveau des oiseaux ce matin et un oiseau en particulier.
Celui-là, on ne connaît pas encore.
C'est un faucon cresserellette, un tout petit rapace qui vient de mettre à l'arrêt un grand parc d'éoliennes dans le sud de la France. Des éoliennes de l'énergie propre qui ont officiellement tué 160 oiseaux et chauves-souris, et notamment donc des dizaines de faucons cresserellettes, une espèce menacée en France à ne pas confondre avec le faucon cresserelle, un peu plus gros lui, il se porte bien, il y en a même à Paris.
Est-ce que c'est une décision de justice importante ?
Oui, c'est la première fois que les exploitants d'un parc éolien sont condamnés au pénal avec de lourdes amendes, 2,5 millions d'euros au total, et surtout l'arrêt des 31 éoliennes pendant 4 mois. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ces faucons, des oiseaux migrateurs. C'est au mois d'avril qu'ils arrivent d'Afrique pour nicher jusqu'à la fin de l'été.
Est-ce qu'on peut parler, Florent, d'éoliennes tueuses d'oiseaux ?
Eh ben oui, parce que c'est une réalité. La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, estime dans un rapport qu'une éolienne tue en moyenne 7 oiseaux par an. Sachant qu'il y a plus de 10 000 éoliennes en France, ça fait 70 000 oiseaux tués chaque année. Et les rapaces, comme le faucon, paient un lourd tribut parce qu'ils ont tendance à tourner autour de ces éoliennes, comme nous l'explique Geoffroy Marx, l'auteur de ce rapport de la LPO.
Généralement, autour des éoliennes, en fait, on défriche, on va libérer le terrain autour et ça rend, par exemple, les micro-mammifères qui sont au sol très visibles et c'est extrêmement pratique pour les rapaces qui chassent.
Mais pourquoi, Florent, les oiseaux percutent les éoliennes ?
Clotilde, les oiseaux ont plein de qualités, mais ils ont du mal à voir les contrastes, à distinguer les pales des éoliennes, parce qu'elles sont blanches, pour se confondre avec le ciel, pour ne pas gâcher la vue des humains. Des chercheurs suggèrent d'en peindre une en noir, mais sans garantie.
Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions que ces coups de peinture ?
Oui, les éoliennes sont en principe équipées de systèmes de détection des oiseaux. Mais là encore, ça ne marche pas très bien, Geoffroy Marx.
Généralement, ça fonctionne avec des caméras qui détectent les oiseaux qui s'approchent. Le logiciel déclenche soit un signal acoustique, soit provoque l'arrêt des machines. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas encore fait vraiment la preuve de son efficacité.
Et non, quand les caméras détectent les oiseaux, c'est généralement trop tard.
Alors finalement, est-ce que les oiseaux et les éoliennes peuvent cohabiter ?
En tout cas, il n'y a pas le choix. On a besoin des deux. Mais cette affaire illustre parfaitement les contradictions qu'il existe parfois entre la protection de la biodiversité et la transition énergétique nécessaire pour lutter contre la crise climatique. Geoffroy Marx du programme Énergie renouvelable et biodiversité de la LPO.
Finalement, c'est un compromis qu'il faut trouver. Il faut aussi de la place pour produire de l'énergie. Ça, on en aura tous besoin demain. Donc, il faut réussir à concilier les deux.
Une dernière illustration, Clotilde, de cette contradiction. Greta Thunberg, la jeune militante du climat, manifestait il y a un an et demi contre des éoliennes illégales en Norvège, construites sur les terres du peuple sami. Leurs rennes d'élevage ne peuvent plus aller pâturer à cause des éoliennes. Mais ces cervidés, eux au moins, ne sont pas menacés, même si on finit par les manger.
Florent Guignard pour la question d'environnement, très très oiseau hein, depuis le début de cette semaine. Il est 7h presque 30 en temps universel. Restez avec nous sur RFI dans un instant, le retour de l'actualité africaine.
Ce mardi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
C'était un des vecteurs des idées démocratiques. Créé en 1950, Radio Free Europe pourrait disparaître. Les États-Unis ne veulent plus la financer. Elle émet actuellement depuis la République tchèque dans une trentaine de pays où la presse n'est pas libre.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.